France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Jusqu'où aller pour lutter contre les déserts médicaux ? Dans la Loire, la préfecture réquisitionne une médecin pour qu'elle assure ses gardes. Elle se disait épuisée, elle est aujourd'hui en arrêt. Explication dans un instant. À suivre encore, la pollution de l'air qui fait des dizaines de milliers de nouveaux malades chaque année et pas uniquement des asthmatiques, résultat d'une vaste enquête que nous vous détaillons. Nous serons également dans les prochaines minutes en Bretagne. La ville de Redon est encerclée par les crues. 600 personnes sont en train d'être évacuées sur place. Le maire Pascal Duchesne.
Les eaux ont monté considérablement et elles vont monter encore. Et donc avec les personnels du SDIS, de la sécurité civile associée, de la gendarmerie et des services de la ville, accélération aujourd'hui du processus d'évacuation.
Et nous verrons comment les sinistrés du Pas-de-Calais ont été indemnisés, eux, un an après les inondations. La ministre de l'Éducation nationale qui rappelle à l'ordre des gendarmes après une intervention dans un collège de Moselle la semaine dernière. La composition du 15 de France de rugby pour débuter après demain le tournoi des Six Nations, retour de Roman Tamak à l'ouverture. Et puis un mariage, un mélange, c'est comme ça qu'on dit en cuisine. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Entre une émission Top Chef et le guide Michelin.
Oui, la prochaine saison du concours culinaire d'M6 rapportera peut-être une étoile du célèbre guide à son gagnant.
A tout de suite pour vos explications. À partir de 13h30, un mystère. Pourquoi tant de Français s'adonnent au puzzle depuis quelques années ? C'est très sérieux. Ce loisir connaît un chiffre d'affaires en progression constante. De nouvelles marques voient le jour. Des compétitions également. 01 45 24 7000 pour partager cette passion avec nous. 13h50, c'est la France. Comment les Français peuvent-ils être à la fois hypersensibles et en même temps indifférent au malheur des autres? Nous aurons besoin d'Éric Fotorino du 1 Hebdo pour comprendre. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson avec l'auteur de bande dessinée Martin Véron. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une illustration du manque de médecins dans notre pays. Nous sommes à Bully, près de Roanne, dans la Loire. Le médecin, la médecin de la commune, est débordé depuis que l'autre médecin de son cabinet est parti s'installer dans une autre région. Alors pour se préserver, elle fait le choix d'arrêter les gardes, ce que n'accepte pas le préfet qui décide de la réquisitionner. Trois gendarmes viennent à son cabinet lui signifier. Choquée, elle est aujourd'hui en arrêt maladie, la commune n'a plus de médecin et les habitants ont lancé une pétition pour la soutenir. Lucie Amadieu les a rencontrés.
Cette pétition, Alain et Andy ont décidé de la signer. Ils comprennent le choix de leur généraliste de ne plus prendre de garde depuis le début de l'année.
Elle a une vie privée.
Bien sûr.
Il faut que ses gamins les gardent, c'est elle qui les a. Et... oui, c'est pas possible.
C'est un médecin, mais c'est aussi une maman.
Bah oui, oui.
Elle a une vie aussi, elle n'a pas que... la médecine.
Avec 1500 patients à suivre, sans compter ceux dont elle n'est pas la médecin traitante, les journées sont longues pour cette généraliste. Alors c'est normal qu'elle ne veuille pas faire plus, estime Mireille Brunelin, adjointe au maire.
C'est des gardes, mais c'est des bobos. C'est mal à la gorge, j'ai mal au ventre. Alors bon, arrive un moment, on les fait descendre de chez eux pour aller au cabinet. À 11h du soir, je pense que ça ne doit pas être réjouissant tous les jours. Hein.
Sauf que ce choix se répercute sur les 6 autres médecins du secteur. Ils doivent donc prendre une garde tous les 6 jours. Ce n'est plus possible au vu de la nécessité d'assurer l'équité des gardes entre tous, estime l'Ordre des médecins, l'ARS et la préfecture. Mais pour le maire de Bully, Dominique Maillère, le problème est plus large.
Tout le monde est surchargé. Il y a beaucoup de kilomètres à faire pour se déplacer d'un lieu à un autre. Et c'est compliqué, quoi. C'est un manque de médecins en campagne.
Le village espère que sa généraliste reviendra. En attendant, un autre docteur fait des consultations les mardis et jeudis pour encore un mois.
Reportage ici, Saint-Étienne-Loire. La santé aujourd'hui. Ce sont donc les résultats de cette grande étude dévoilée par Santé publique France sur les conséquences de la pollution de l'air. On savait qu'elle était à l'origine de 40 000 morts par an dans notre pays. Bonjour Mathilde Bouquerel.
Bonjour.
On a une estimation maintenant plus ou moins précise du nombre de malades.
Oui, ils sont des dizaines de milliers. Précisément, chez l'enfant, entre 7 000 et 40 000 cas de maladies respiratoires, l'asthme par exemple, sont dus à la pollution de l'air. Et chez l'adulte, entre 4 000 et 78 000 cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou encore métaboliques comme le diabète. Les chercheurs ont en fait analysé les effets de deux polluants de l'air, le dioxyde d'azote, le principal gaz émis par les pots d'échappement des voitures, et les fameuses particules fines qui pénètrent très profondément dans le système respiratoire. Dans le détail, l'étude conclut notamment que 30 000 cas d'asthme seraient évitables chez l'enfant si on réduisait le taux des particules fines dans l'air, soit près de 15% des cas, mais aussi 3 000 nouveaux cas de cancer du poumon chez l'adulte, soit 7% des cas, ou encore près de 58 000 nouveaux cas d'hypertension artérielle, soit 8% des malades.
Et cette étude chiffre aussi le coût économique de cette pollution de l'air.
Oui, environ 4 milliards d'euros pour le dioxyde d'azote et 3 fois plus pour les particules fines. Les chercheurs ont pris en compte 3 facteurs. Le coût des soins nécessaires aux malades, médicaments, hospitalisations, passages aux urgences, mais aussi le manque à gagner pour la société, perte de salaire pour la personne atteinte, arrêt maladie, départ en retraite anticipé, et enfin la perte de bien-être pour la personne malade. L'objectif de ce chiffrage, c'est bien sûr de pousser les dirigeants à agir pour réduire la pollution de l'air.
Merci Mathilde Bouquerel. La pollution de l'eau, elle est parfois provoquée par de fortes pluies. C'est le cas en ce moment dans plusieurs secteurs du nord de la ville de Rouen. Mais pas en Bretagne. Les crues n'ont pas d'impact sur l'eau potable selon les autorités. Nous serons dans une minute à Redon, au sud du département de l'Ille-et-Vilaine. Redon, c'est la ville la plus touchée en ce moment par ces inondations historiques. Mais d'abord, arrêtons-nous sur cette rumeur qui a la peau dure dans la région depuis quelques jours. Des lâchers d'eau auraient eu lieu pour faire baisser le niveau à Rennes, la grande ville de la région, et donc pour l'épargner. Pascal Hervé, vice-président à Rennes Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement, dément ces allégations.
Si des fois ils faisaient du lâchage d'eau, de toute façon Rennes serait une des premières grandes villes qui serait touchée, aussi bien Châteaubourg que Rennes que les autres. Il n'y a pas de réglage sur Rennes, il n'y a pas de réglage qui permette ou d'augmenter ou de diminuer en fait les niveaux d'inondation. Nous, on a le fil de l'eau, quoi, en fait, hein, et on n'a pas augmenté non plus sur Rennes dans nos travaux nos capacités de protection, si vous voulez, parce que ça pourrait être ça en fait. Hein, l'idée, c'est qu'on aurait augmenté la hauteur des digues ou des choses comme ça. Non, c'est faux. Quand on refait les digues, on les refait exactement au niveau qui sont au code sur lequel elles sont inscrites. Donc, c'est absolument faux. C'est des idées qui sont des vieilles idées. Et c'est les crues exceptionnelles qu'on a, faut pas l'oublier. Tout le monde en est victime, quoi, en fait.
Le vice-président de Rennes Métropole en charge de l'eau au téléphone d'ici Armorique. Alors, quelle est la situation sur place en ce mercredi pluvieux en Bretagne, marqué par le passage de la tempête Ivo? Bonjour Guillaume Fariol.
Bonjour.
Vous êtes sous la pluie à Redon, les eaux de la Vilaine, on les entend derrière vous, continuent de monter. Et vous constatez cette montée depuis le pont où vous vous trouvez?
Oui, où j'y étais déjà hier soir et l'eau a nettement progressé depuis. Un repère, une voiture en fin de journée hier, elle avait de l'eau jusqu'au-dessus du capot. Désormais, on aperçoit à peine son toit. La Vilaine déborde, tout comme tous les marais du pays de Redon. Des lotissements sont inondés, d'autres se préparent à l'être. L'eau se rapproche de l'hôtel de Marie-Pierre, très inquiète.
Avant-hier, on avait une flaque autour de chez nous et là, on a un parking qui est accessible en petit bateau, quoi. On est sur quelque chose d'assez extraordinaire, incroyable, impensable. Ça va très très vite.
Bérangère, elle, a fini par se faire une raison. Elle laisse derrière elle sa maison, sommée d'évacuer.
On ne sait pas dans quel état on va la retrouver, quoi. Donc on attend. Je ne peux pas vous dire, en fait, là je suis complètement démunie. On a tout mis en sécurité, on espère que ça va suffire, c'est tout.
Quant à ceux qui restent, eux aussi font le maximum pour limiter les dégâts. Cécile se sent un peu dépassée dans son rez-de-chaussée.
Elle a surélevé tout ce qui est meubles, l'électroménager et tout ça, la table du salon. On est impuissant, hein, là-dessus, on a juste à attendre et voir comment ça va se passer, mais là, c'est ça, l'eau, on peut rien faire, quoi. C'est de l'impuissance totale.
Selon Vigicru, la Vilaine atteint en ce moment 5,10 m, un niveau exceptionnel, mais tout de même, c'est nettement en dessous des prévisions qui doivent être maintenant mises à jour. Selon ses dernières estimations, le fleuve doit encore gagner une cinquantaine de centimètres d'ici la nuit prochaine.
Merci Guillaume Fariol pour ces dernières informations en direct de Redon avec les moyens techniques de Florent Layani. Tout près de la ville de Redon, les départements de Loire-Atlantique et du Morbihan sont également, et tout comme l'Ille-et-Vilaine, en vigilance rouge. Maine-et-Loire, Sarthe, Mayenne, Orne et Calvados, toujours en orange pour les crues. Les habitants que l'on vient d'entendre tentent donc de limiter les dégâts. Environ 650 ont dû être évacués depuis le début de cet épisode et 600 de plus sont en train de l'être, donc à Redon. Mais pour eux, très vite va se poser également la question des assurances. Bonjour Victor Costamounier.
Bonjour.
Quelles sont les premières choses à faire quand on est inondé?
Et dans un premier temps, faire le nécessaire dans la mesure du possible pour éviter l'aggravation des dommages causés par les inondations. Ensuite, prendre des photos des lieux lieux et objets sinistrés et réunir des factures, des devis, en bref des preuves de ce que vous possédez et de son état avant le sinistre. Après, il faut attendre que l'arrêté de catastrophe naturelle soit publié par les pouvoirs publics, en général par la commune. C'est cet arrêté qui vous permettra de faire jouer votre assurance. Vous avez 30 jours à compter de la publication de l'arrêté pour prévenir l'expert. Puis ce qui est important aussi en amont, avoir un contrat d'assurance qui corresponde bien à ce qui est à assurer.
On se souvient, Victor, qu'il y a un an, toute une partie du département du Pas-de-Calais était dans cette situation. Aujourd'hui, où en sont les sinistrés et les communes? Est-ce qu'ils sont indemnisés? Est-ce qu'ils sont toujours assurés d'ailleurs?
Alors, on parle du Nord et du Pas-de-Calais, les deux départements touchés par les inondations en novembre-décembre 2023 et janvier 2024. Selon les chiffres de France Assureurs, fédération qui rassemble les entreprises du secteur, la très grande majorité des sinistrés ont déjà été pris en charge. Sur les près de 30 000 particuliers touchés, 93% ont été indemnisés, même si pour certains les délais ont été longs et les sommes versées ne sont pas suffisantes pour couvrir les travaux nécessaires, d'autant que les cotisations pour les assurances ont augmenté. Même peine pour les communes, si les délais sont plus longs, la très grande majorité a aussi été indemnisée, mais les coûts d'assurance flambent. À Blandec par exemple, commune symbole de ces inondations de l'hiver dernier, la mairie parle d'une cotisation multipliée par 3 et d'une franchise passée de 100 000 à 500 000 euros.
Merci Victor Costa-Mounier pour ces explications. Toujours au rayon éco, les salariés du chimiste Arkema ont manifesté ce matin devant le siège de leur entreprise. C'est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. 150 salariés venus pour moitié du département de l'Isère, où Arkema envisage de supprimer 154 des 344 postes de son usine de Jarry. Le nombre de permis de construire dans notre pays, lui, a encore baissé l'an dernier. Moins 12,3%, confirmation de la crise du logement, même si leur nombre a légèrement augmenté. Nombre de permis de construire a légèrement augmenté en fin d'année 2024. Le logement, mission centrale pour le gouvernement. C'est ce qu'avait dit François Bayrou à l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale. Mais pourra-t-il faire adopter un budget? La réunion entre députés et sénateurs qui doivent trouver un compromis. Cette réunion doit se tenir demain, mais à ce stade, les socialistes refusent toujours de reprendre les négociations avec le Premier ministre. Ils lui reprochent l'emploi de l'expression submersion migratoire pour parler de l'immigration en France. Et visiblement, François Bayrou ne compte pas revenir sur ses propos. La porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, ce matin à l'issue du Conseil des ministres.
D'abord, je ne voudrais pas qu'on rentre dans une bataille de mots. Les Français ne comprennent pas cette bataille de mots. Ils ont chacun des priorités en tête. La première, c'est de pouvoir doter notre pays, je le répète, d'un budget. Et les Français en sont de plus en plus conscients. Les négociations sont en cours. Les membres de la commission mixte paritaire sont en train de discuter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune prise d'otage de quelque nature que ce soit sur le budget et l'adoption du budget pour la France. C'est le sujet numéro un pour notre pays. Et donc, en responsabilité, tout le monde continue de négocier.
La porte-parole du gouvernement au micro de Maxence Lambrecq. La ministre de l'Éducation nationale, elle, n'a pas apprécié les méthodes des gendarmes. Et c'est aussi lié au dossier de l'immigration. Les gendarmes de Moselle sont intervenus la semaine dernière dans un collège de Mézières-les-Metz pour contraindre une élève burkinabée de les suivre et l'expulser, ainsi que sa famille, en Belgique. Cette intervention a donc fait réagir Elisabeth Borne. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
La ministre vient d'écrire au recteur.
Oui, elle rappelle d'abord que la présence de la police ou de la gendarmerie en milieu scolaire n'est possible que dans trois cas. Des projets éducatifs de prévention, des exercices de sécurité ou, à la demande du directeur d'école ou du chef d'établissement, pour des situations d'urgence, un danger imminent ou un trouble à l'ordre public. En revanche, les interventions liées au procédé les procédures d'éloignement sont strictement interdites dans le cadre scolaire, y compris pendant le temps périscolaire, même avec l'accord des parents. La ministre fait référence à une circulaire de 2013. L'interdiction s'applique aux enfants, aux jeunes majeurs scolarisés et aux personnes qui les accompagnent. L'arrestation de cette collégienne sans papier il y a une semaine lors d'un cours de français avait choqué les enseignants. Leur principal syndicat, le SNES, avait demandé à la ministre de se positionner et de rappeler les règles. Sophie Venetite, la secrétaire générale, se félicite de cette réaction.
C'est une très bonne chose qu'Elisabeth Borne ait fait ce rappel à toutes les rectrices et tous les recteurs. Et désormais, il faut que ces règles soient respectées. C'est une parole forte qui était attendue et qui, dans le contexte politique, permet de poser... dans le contexte politique, on parle beaucoup d'immigration. Ils sont parfois les boucs émissaires de notre société. Et ben, c'était bien qu'il y ait cette parole de la ministre d'État de l'Éducation nationale pour rappeler le rôle de l'école et le rôle d'accueil de l'école.
C'est aussi, fait remarquer la syndicaliste, ce qu'on demande aux enseignants d'apprendre aux élèves lors des cours d'EMC, l'enseignement moral et civique, sur les principes et les valeurs de la République.
Sonia Princé, dans le Rhône, 4 adolescents et un adulte légèrement blessés ce matin dans un accident de car scolaire près de Lyon. Le véhicule a basculé dans un fossé avant de terminer sur le toit. 37 engins et 80 secouristes sur place. 6 hommes sont en garde à vue depuis hier dans l'affaire de la tentative d'enlèvement sur le youtubeur Inoxtag. C'était en novembre dernier. Plusieurs personnes avaient fait irruption dans le jardin d'une maison d'Orgeval. C'est dans le département des Yvelines. Mais en fait, il s'agissait de l'ancienne maison des parents du youtubeur qui n'y réside plus. Les suspects s'en étaient pris alors au couple qui réside sur place. Je reviens un instant à l'incertitude politique du moment autour du sort du gouvernement. Elle a des conséquences sur la vie des communes. Dans le budget qui a été voté la semaine dernière par les sénateurs, l'économie demandée aux collectivités locales est de 2,2 milliards d'euros. Et de fait, certaines doivent renoncer à des engagements. Ainsi, en Gironde, où le maire socialiste de Saint-Médard-en-Jal revient sur des décisions qu'il avait validées avec la Convention citoyenne. Reportage Laurence Perron.
Le maire, Stéphane Delpera, ne s'était prudemment pas engagé à reprendre sans filtre la quelques centaines de propositions de sa Convention citoyenne. Alors il essuie assez stoïque les critiques.
Sur vos 110 propositions, 86 renforcent et enrichissent les actions municipales en cours ou prévues. Super. S'ensuit un sentiment de déception sur le manque d'engagement et d'échéance de votre part.
Les deals, mais sur la table aussi, les menaces qui pèsent sur son budget.
On ne sait toujours pas à quelle sauce nous serons mangés, parce que les annonces évoluent quasiment quotidiennement. Le pire étant ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire la hausse des cotisations retraite des agents de 12%. Pour une ville comme nous, ça représenterait presque 2 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié de notre épargne.
Un conventionnel s'agace toutefois.
La question de savoir comment on prépare les gens à des alternatives de mobilité autres que la voiture. Et ça, c'est pas des questions de budget, c'est des questions de positionnement.
Mais en fait, si on vous donne pas une réponse peut-être aussi claire que vous le souhaiteriez, c'est tout simplement justement pour pas raconter d'histoire. Mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce qu'il va y avoir des débats très complexes. Vous dites que ce n'est pas un problème d'argent. Le bus express, c'est 160 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'argent ou pas, mais à un moment, il faut bien être dans le réel aussi, quoi.
Et comme la majorité des élus locaux, le maire de Saint-Médard s'inquiète de la facture politique qu'il lui faudra payer si le Parlement avalisait des coupes budgétaires trop sévère.
Laurence Perron en Gironde pour Inter. Dans le Pas-de-Calais, la marque Marc et Balzan va fermer son usine de Calais. 66 personnes concernées. Cette marque vient de perdre un contrat pour la fabrication des tenues de l'armée française, notamment les tenues du 14 juillet. L'armée américaine, elle, doit se défaire de l'idéologie transgenre. C'est l'objectif du nouveau président Donald Trump qui vient de prendre un décret en ce sens. Il ne veut plus que ces personnes dont le genre ne correspond pas à l'identité sexuelle de naissance puissent servir dans l'armée. Et un État américain sert de laboratoire à cette politique, c'est l'Oklahoma, État du Sud, conservateur, qui applique déjà les mesures imposées au niveau national. Reportage à Oklahoma City de notre envoyée spéciale, Isabelle Labéry.
RPC, il ne donne que ses initiales, a lâché l'armée il y a 10 ans, poussé à la démission par ses supérieurs.
J'ai des amis qui servent encore, mais ils ont peur d'être démasqués et expulsés.
Parce qu'il est né femme, le jeune homme aux yeux clairs et au physique fragile est aujourd'hui privé du suivi médical auquel il a pourtant droit.
Le département des anciens combattants me considère selon le genre qui figure encore sur mes papiers. Il n'accepte pas que je sois une personne trans.
Les vies des trans comptent. L'an dernier, plusieurs centaines de manifestants ont envahi le siège du gouvernement local.
L'État a suspendu la prise en charge des traitements de transition de genre pour les moins de 18 ans. Et les médecins qui dispensaient ces soins sont devenus des criminels aux yeux de la loi.
C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau national. Nicole McAfee, responsable d'une association de soutien aux minorités sexuelles.
Pour se soigner, certaines personnes doivent régulièrement aller en dehors de l'Oklahoma. Ces politiques ont déjà causé beaucoup de tort aux familles.
La militante et l'ancien soldat transgenre sont peu optimistes sur les recours en justice contre les décrets présidentiels. Ils se préparent à 4 années éprouvantes. Oklahoma City, Isabelle Labéry, France Inter.
En République démocratique du Congo, l'aéroport de Goma, la grande ville de l'est du pays, ainsi que la quasi-totalité du centre, sont désormais sous contrôle des rebelles du M23 et des forces du Rwanda. L'armée de RDC a dû fuir. Pas d'issue diplomatique à court terme à cette crise, puisque le président de RDC, Félix Tshisekedi, ne s'entretiendra pas comme c'était prévu aujourd'hui avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame. C'est officiellement pour des raisons d'agenda et selon un haut diplomate rwandais, ce groupe armé soutenu par son pays, le M23, va continuer d'avancer en RDC et tout cela bien au-delà de Goma.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
D'un côté, un concours culinaire télé qui cherche visiblement la reconnaissance et de l'autre, un guide gastronomique qui, lui, veut toucher un nouveau public. Voilà pourquoi l'émission de M6 Top Chef et le guide Michelin s'associent. Julien Baldacchino, on vous retrouve. Le vainqueur de la prochaine saison pourrait hérité directement d'une étoile.
Et oui, car des inspecteurs du guide Michelin vont prendre part à l'évaluation de plusieurs épreuves culinaires de l'émission avec des effets de réalisation télé pour conserver leur anonymat. Ils seront dans l'ombre ou de dos à l'écran. Ça, c'est un dispositif qui a déjà existé dans Top Chef à plusieurs reprises. Exemple en 2014, dans la 5e saison.
C'est la directrice générale du guide qui distribue les fameuses étoiles, quoi. Là, je me dis, c'est pas assez énorme.
C'est un événement parce que 8 inspecteurs du guide vont déguster notre cuisine.
8 inspecteurs, 8. C'est pas 1, 2, c'est 8. C'est quand même énorme. C'est-à-dire, qui a eu la chance un jour de faire à bouffer pour 8 inspecteurs du guide? Vous me dites ce que vous en pensez, ok, tout va bien. C'est 8, quoi.
La vraie nouveauté, c'est donc cette étoile à la clé pour le gagnant ou la gagnante. Mais le Michelin se réserve une voie de sortie pour préserver son niveau d'exigence. Les inspecteurs du guide se réservent la possibilité de ne pas accorder au vainqueur cette étoile s'ils estiment que tous les critères ne sont pas remplis.
Oui, si le vainqueur n'est pas au niveau, il n'aura pas automatiquement l'étoile.
C'est ça.
Partenariat entre les deux, mais il y a déjà des liens. Julien, les candidats de l'émission finissent quand même régulièrement avec des étoiles.
Oui, au total, depuis la création de l'émission en 2010, 38 candidats ont reçu au moins une étoile après l'émission. 29 sont toujours étoilés à l'heure actuelle et du côté des invités et du jury aussi, c'est une déferlante d'étoiles. Les 6 jurés de la dernière saison cumulent à eux seuls une vingtaine d'étoiles dans le guide. L'émission rajoute donc le célèbre guide à son carnet d'adresses, comme il l'a déjà fait avec les meilleurs ouvriers de France, invités récurrents du concours.
Merci Julien Baldacchino. Là aussi, on parle de prix. Le cinéma cette semaine. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Avant d'écouter vos conseils, vos critiques et vos coups de griffe, tout de même les nominations pour les Césars, on l'a appris ce matin. 3 films se distinguent. Le Comte de Monte Cristo, 14 nominations. L'Amour Ouf, 13 nominations. Voilà pour 2 grands succès populaires de l'année 2024 et puis 12 nominations pour Emilia Pérez qui tentera aussi le film de Jacques Audiard de briller dans quelques semaines. Ce sera aux Oscars. Voilà pour les Césars. On en vient donc à vos conseils de la semaine, Alexis. D'abord cette grosse sortie, le biopic de Bob Dylan, qui ne vous a que moyennement convaincu.
Avec Imparfait Inconnu, le réalisateur James Mangold propose en quelque sorte une suite à son formidable Walk the Line consacré au chanteur Johnny Cash. Cette fois-ci, ce sont donc les débuts, les succès et les excès du Rimbaud du rock, prix Nobel de littérature en 2016, qui sont reconstitués pendant 2h20. Dans le rôle de Dylan, Timothée Chalamet redouble d'efforts pour jouer l'artiste torturé, mais son interprétation me semble trop propre, trop sage. C'est d'ailleurs un souci récurrent dans ce biopic produit par Disney. Ni sexe, ni violence, ni drogue. La contre-culture des 60s et le New York bohème sont gentiment sulfureux, mais sans froisser personne. À l'image de cette séquence emblématique au Festival de Newport, où de nombreux projectiles sont jetés sur scène, sans jamais atteindre leur cible.
Vous avez aussi des réserves, Alexis, sur le nouveau Guédiguian, la pivoleuse.
Oui, ce film choral dans le quartier marseillais de l'Estaque ronronne un peu trop. L'intrigue tourne autour d'une pivoleuse, Ariane Ascaride, alias Maria, une femme de ménage endettée qui détourne l'argent de ses clients.
Les bulots, ils sont où ?
Ben, ils sont là.
Vous pourriez me signer des chèques d'avance, je me suis servi du dernier.
Comme un prolongement du cinéma de Pagnol, les films de Robert Guédiguian célèbrent l'entraide à la sauce provençale, mais la morale se révèle ici un peu surannée, avec notamment une scène de baiser qui pose vraiment question. Reste le plaisir de retrouver toute cette troupe de comédiens fidèles depuis plus de 40 ans au cinéaste marseillais, et notamment le regretté Jacques Boudet, dont c'est le dernier rôle.
Le drame carcéral Sing Sing, en revanche, vous a emballé.
Formidable travail que celui du jeune cinéaste américain Greg Cuédar, qui reconstitue ici l'atelier de théâtre d'une prison de très haute sécurité de l'État de New York. Inspiré d'une histoire vraie portée par des acteurs impressionnants, Sing Sing, en compétition lors du dernier festival de Deauville et deux fois nommé aux Oscars, est la belle surprise de ce début d'année pour le ciné indé US.
Et vous nous recommandez aussi une tragicomédie japonaise, Le Jardin Zen.
Yoriko est une caissière quinquagénaire, membre d'une secte qui aime s'occuper de son jardin, mais toute sa vie se dérègle lorsque son mari, atteint d'un cancer, revient vivre avec elle après une longue séparation. La réalisatrice Naoko Ogigami nous régale avec cette chronique familiale aussi fantaisiste que cruelle et forcément politiquement incorrecte au Japon.
Quoi d'autre en salle cette semaine, Alexis ?
April, un drame géorgien sur une gynécologue accusée de pratiquer des avortements illégaux. Julie se tait sur le milieu du tennis et la loi du silence après la suspension d'un entraîneur et un monde violent qui suit le parcours de deux frères apprentis braqueurs.
Alexis Demeyer, chaque mercredi dans ce 13-14, les sports, grande soirée de Ligue des Champions ce soir, c'est la dernière de la phase de groupe. Brest, Lille et Monaco savent qu'ils poursuivront dans cette compétition. Brest qui reçoit à Guingamp le Real Madrid, match de prestige, gros enjeu pour le Paris Saint-Germain qui se déplace à Stuttgart pour valider son billet. On connaît depuis ce matin la composition du 15 de France qui débutera le tournoi des 6 nations de rugby vendredi à domicile au Stade de France contre le Pays de Galles. Retour au poste de demi-ouverture de Romain Tamac qui sera évidemment associé à la charnière à Antoine Dupont. Ce qui nous amène au Vendée Globe.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
Violette d'Orange sur le chemin du retour, elle a franchi l'équateur. Ces derniers jours, elle est dans l'hémisphère nord et elle sent qu'elle se rapproche des Sables d'Olonne où elle est attendue. D'ici 10 jours, elle nous a envoyé ce matin de ses nouvelles.
Hello France Inter, c'est Violette sur le tour du monde. 80 jours que je suis en mer, que mes priorités sont de faire avancer mon bateau le plus vite possible, de faire de la météo, de la stratégie, dormir, manger, lire, écrire un petit peu. Chaque jour de course, j'ai trouvé dans mes sacs d'avitaillement une photo de mes proches et chaque jour, je l'ai collée à l'intérieur de mon bateau. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça représente un mur entier de souvenirs qui me fait énormément de bien parce que ce qui me manque le plus en mer, c'est mes proches. Mais c'est pas fini. Encore 2 semaines de course, il y a du match. Je suis bien revenue sur mes concurrents, Seb, Cali, Louis. Je suis à leur niveau, voire un tout petit peu devant depuis ce matin. Alors, il faut rien lâcher jusqu'au bout. Ces derniers jours, j'ai eu la bataille avec les grains du poteau noir et aujourd'hui, c'est sargasses et poissons volants au menu. Petit à petit, je me rapproche un petit peu plus de la maison. Alors je profite de ces derniers instants qui sont juste magiques en mer. Mais comme les chevaux qui sont écuries, je suis aussi au taquet pour arriver le plus vite possible. Allez, à bientôt.
Voilà, Violette d'Orange qui a des airs de Phileas Fogg aujourd'hui, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, pourquoi des milliers de Français se passionnent-ils pour les puzzles de tous âges? Et c'est un peu la nouveauté du moment, le marché ne cesse de grossir. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h45, notre feuilleton consacré à la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles psy, mais dans des familles. Pas à l'hôpital, c'est la particularité. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous vous interrogez sur les Français, hypersensibles ou indifférents?
Alors oui Jérôme, à écouter autour de nous, il n'y aurait plus que des hyper ou même des ultra-sensibles, alors que paradoxalement, se fait jour une sorte d'insensibilité collective qui confine à l'indifférence.
Et avec vous Frédéric, un auteur de BD.
Martin Véron, dessinateur de presse et auteur de nombreux albums. Le dernier en date s'appelle Hérostrate, c'est un roman graphique. Et avec lui, nous écouterons une chanson de Jean-Claude Vanier, T'as pas de cœur, Jérôme.
Comment ça? On verra ça tout à l'heure. Merci à tous les deux.